voyait comme ça des lignes ou des mots, c'était parfois un titre ou parfois un refrain, mais il n'y avait jamais cet ensemble de choses. Et je me retrouvais avec une espèce de travail solitaire. C'est pour ça que je me voyais un peu comme une sorte d'auteur-compositeur incomplet, à compléter chaque fois avec un autre. Et au fur et à mesure, j'envoyais quelque chose à quelqu'un et il me le rendait. Il y a eu comme ça des partenaires assez différents. Mais au bout d'un moment, c'était moi un petit peu quand même le dénominateur commun. Quand j'attaque un album, j'essaie d'abord de savoir ce qui me paraît urgent ou important de dire sur le moment, ou ce qui est à compléter. Alors, dès que j'ai ça, je crois que l'album peut se faire.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Bonjour et bienvenue au studio 104 de la maison de la radio, week-end de fête, Radio France fête le livre, la littérature, les écrivains. Alors, pourquoi Bachung? Parce que s'il est le grand musicien que l'on sait, il faut aussi le considérer comme l'un des grands auteurs de la chanson française et peut-être même l'un de nos grands poètes. On va avoir l'occasion d'en parler tout au long de sa carrière. Il travaille dans une grande proximité avec ses paroliers. En apportant ses idées, ses mots, ses fantasmes, il exige beaucoup d'eux, pioche parfois dans plusieurs de leurs chansons pour n'en constituer qu'une seule, à la recherche permanente d'univers, de sons, de jeux de mots, d'images parfois obscures. Alain Bachung estimait tenir sa chanson dès que les mots étaient trouvés.
La valeur des mots. C'est le premier truc qui m'a paru important. Tel ou tel mot dans tel ou tel contexte. Il peut devenir précis, ridicule, vague, faux, alors que c'est le même mot.
L'auteur, compositeur, interprète disparu il y a presque 10 ans, en 2009, revit cette semaine avec la sortie d'un ultime disque studio en amont, disque France Inter, et sa mémoire, on vous le promet, sera bien vivante dans le Grand Atelier. Il et elle vont parler de lui pendant 2 heures, de leur ami, de leur collaborateur. Première heure avec Boris Bergman, l'un de ses grands paroliers. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présent sur 5 disques au moins de Bachung, si je ne m'abuse.
Oui, il y a eu 5 albums, puis en comptant les chansons de film, ça doit bien faire 7.
Et s'il faut citer au moins 2...
J'ai jamais su compter, c'est pas grave.
S'il faut citer au moins 2 tubes, on cite Gabi O, Gabi et Vertige de l'amour. À vos côtés, il y a l'un de ses biographes. Bonjour Pierre Mikhailov.
Bonsoir Vincent Joss.
Vous avez écrit Bachung, Vertige de la vie. Et puis un jeune auteur-compositeur-interprète vient parler de Bachung et chanter aussi Bachung dans cette émission. C'est Joseph Danvers. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites souvent les beaux jours de notre playlist sur Inter avec des chansons comme Kids, Entre mes mains, Always Better. Et je vous propose d'abord de commencer cette émission avec une chanson extraite de Bleu Pétrole, chanson de Gaëtan Roussel, qui dit bien l'absence de Bachung.
Je t'ai manqué. Pourquoi tu me visais? Tous nos échanges coulaient de source, tous nos mélanges cotés en bourse. Tout est brutal, beauté en touche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais? Tout est extrême, limite et cône glacée, tout est idem, les vitrines, les pôles opposés. Dans les étoiles ou sous la douche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne rien, si l'on construisait les phrases à l'envers, ou si l'on soulevait de main, qui serait l'adversaire entre nous, qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait plus rien? amour nos verrous. Si l'on suivait les voies ferroviaires, qui aurait le pied marin? Si l'on sifflait les vents de théière, ou si l'on ne sifflait plus, qui serait entre nous qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne se disait plus rien? Je t'ai manqué, pourquoi tu me disais?
Le Grand Atelier, Vincent Josse sur France Inter.
Je t'ai manqué, chanson extraite du 12e disque d'Alain Bashung, Bleu Pétrole. Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait plus rien, je t'ai manqué, point d'interrogation. Je m'adresse à vous, Boris Bergman, vous qui avez écrit pour d'autres artistes, bien sûr, que Bashung. On peut citer Dalida, Christophe, Eddy Mitchell, Demis Roussos et d'autres. J'ai envie de parler de manque et de vous interroger sur le manque de Bashung. Est-ce que vous sauriez définir ce qui vous manque le plus?
On a commencé ensemble, c'était les premiers jours de notre nouvelle vie. On était tous les deux de vieux cow-boys de retour, un peu comme Joel McCrea et Randolph Scott dans Coup de feu dans la Sierra. C'est-à-dire que lui était, on était ce qu'on appelle des has-been à l'époque, il faut bien le dire. Ce qui est mieux que d'être des never-been, ça c'est sûr.
Mais en quoi vous étiez has-been?
Bah parce que les gens estimaient qu'on nous avions fait notre... que nous avons fait notre part de que voilà. Donc Alain est venu à la maison, puis on s'est aperçu qu'on se mettait la tête dans le même bol. Moi j'écoutais Gigi Kell, on l'a écouté Gigi Kell ensemble. On s'est aperçu qu'on avait le même trio de rockers. Bon, moi je mettais Buddy Holly en haut et lui il mettait Eddie Cochran et Gene Vincent en haut. Bon, mais enfin on avait le même tiercé dans le désordre. Bien sûr. Alors il y a un manque, effectivement. On a été, je dirais presque pas des. On a été des copains de régiment, quoi. Je veux dire des anciens de la Légion. Et après on est devenus amis. C'est impossible d'avoir une collaboration de plus de 15 ans sans avoir de l'amitié.
Je me tourne vers Pierre Mikhailov. On reviendra bien sûr sur votre collaboration avec Bashung, Boris Bergman. Vous êtes l'auteur, Pierre, de Bashung, Vertige de la vie. Dans la chanson française, la mort de Bashung, ça a laissé un vide de quel type?
Bien sûr, ça a laissé un vide comme la disparition de Jacques Brel, de Léo Ferré, de tous ces grands personnages qui sont à cheval sur plusieurs décennies et puis qui de par leur carrière n'ont pas arrêté de surprendre, n'ont pas arrêté de se renouveler, de changer. Donc un vide énorme comme toute disparition d'un grand créateur, personnage irremplaçable.
Ça revient un peu à vous demander sa place dans la chanson française au fond.
Je vais pas utiliser le mot monument parce que ça me fait un peu trop pompeux, mais c'est un des personnages qui a tracé une voie originale. Il y en a pas tant que ça. C'est une voie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire c'est un personnage qui arrive avec son univers musical, son univers de texte, son univers d'arrangement, quelqu'un qui crée, qui arrive à faire un mélange qui est très compliqué à faire en France de chansons, de rock, tout en utilisant la langue française qui est pas forcément une langue qui se prête à la musique binaire, donc sans tomber dans les clichés, et qui se rend compte que quand on chante en français, on peut pas se permettre de chanter des banalités comme on peut parfois le faire en anglais, on peut pas se contenter de dire « My baby, I love you ». Il faut des textes un petit peu plus compliqués que ça, donc c'est quelqu'un qui arrive à mélanger tout ça, la culture française, le rock, la chanson, et à faire une œuvre originale, donc... parcours pas si courant que cela.
Je me tourne vers le plus jeune d'entre nous, c'est Joseph Danvers, auteur, compositeur, interprète. Vous avez connu Bashung, bien sûr, mais vous l'avez écouté à partir de quand, à partir de quel disque, à quelle époque dans votre vie?
Alors moi, je l'ai écouté, je pense, de manière plus ou moins inconsciente, quand j'étais vraiment tout gamin, période Gabi et Vertige de l'amour, j'avais pas conscience.
Ah. Donc les débuts de la collaboration Bergman-Bashung, ouais.
Et puis la petite anecdote là qui m'est revenue quand on m'a demandé de parler un peu d'Alain ces derniers temps, c'était quand j'étais petit et que au primaire, on me demande ce que je voulais faire plus tard comme métier. Je disais, je veux faire Alain Bachung comme métier. Voilà, je voulais faire ça. Pompier, ça, d'ailleurs, ça pompier voulait, ou Alain Bachung.
Ça voulait dire quoi précisément dans votre tête de petit garçon?
Je sais pas, je sais que ma mère m'a dit que je passais mes mercredis après-midi devant la glace dans notre petite maison. On avait une petite maison Phoenix et voilà, et j'avais une petite glace dans l'entrée. Je mettais une raquette de tennis en mandoulière et je faisais Gabi au Gabi, en fait. Voilà. Et, pour moi, ça signifiait pas grand chose. Je voulais être cette voix que j'entendais à la radio. Voilà.
On vous entend, si je puis dire, à travers Bachung dans le disque Bleu Pétrole 2008, mais aussi dans celui disque France Inter, Alain Bachung en amont. Comment se fait la rencontre? Vous avez dû être comme un fou quand il vous a appelé, si c'est le cas.
Ben, la rencontre s'est faite, en plus il y a eu des signes, c'était assez marrant comme histoire, c'est-à-dire que j'avais entendu dire que qu'Alain Bachung cherchait des auteurs, cherchait des nouveaux textes, des nouvelles plumes, et puis les gens de mon label m'ont dit laisse tomber, il y a déjà Dominica, Daniel Darc, il y a déjà plein de mecs comme ça. En gros, ça sert à rien d'envoyer un texte.
Mais vous aviez très envie.
Ben, j'avais envie, puis je suis un mec assez têtu surtout. Donc j'ai trouvé le contact de son directeur artistique, j'ai écrit 3 textes, et je lui ai envoyé un soir par mail, j'ai fermé mon ordinateur portable, je suis allé me coucher. Et le lendemain matin, j'avais un mail du directeur artistique me sollicitant pour écrire des textes pour Alain, en me disant voilà, on se connaît pas, mais j'ai ton nom est dans une shortlist, est-ce que tu veux écrire pour Alain? Donc je comprenais pas vraiment, et je me suis rendu compte que nos emails s'étaient croisés en fait. Et donc, une heure après, j'ai un coup de fil du directeur artistique qui me dit « Alain a lu les textes, il les aime beaucoup, appelle-le et prenez rendez-vous pour boire un café cet après-midi. » Donc là, il y a une petite angoisse, une petite suée. On prend le téléphone et on appelle Alain. Et en fait, les choses se passent merveilleusement
comment
bien.
Comment il vous accueille au téléphone? Pardon d'être aussi précis, mais comment il vous accueille au téléphone? Quels sont les premiers mots qu'il dit à Joseph Danvers?
Moi, il est, je le connais moins, par exemple, que Boris, mais c'était quelqu'un qui... Dans les premières rencontres, il n'était pas très bavard, contrairement à moi. Ensuite, ça s'est libéré, mais voilà, c'était, il m'a juste dit, j'ai reçu des textes, tu vas venir boire un café? Donc oui. Et là, il m'a préparé une cafetière, je pense qu'il y avait 1,5 litre de café, qu'on s'est envoyé, et on a parlé de tout sauf des textes.
Et, il était curieux de vous?
Il était curieux de, je pense, mais indirectement, c'est-à-dire qu'il m'a pas mis mal à l'aise en me posant des questions, c'était vraiment pas un entretien où il y avait quelque chose de très informel. On a parlé de la musique. Je me souviens qu'on a parlé de Björk, de Massive Attack, de Portishead, de Kurt Weill, de plein de gens. Et puis au bout de très longtemps, au bout d'un litre et demi de café peut-être, voilà, on a commencé à parler du texte, du premier texte qui était Ma peau va te plaire.
Est-ce qu'il vous a fait corriger beaucoup de choses, changer beaucoup de choses? Est-ce qu'il a ajouté des mots aux vôtres?
Non, pas vraiment. En fait, sur la chanson Temps de nuit, sur Bleu Pétrole, Il a élagué le refrain qui était plus fourni pour ne garder que si loin de moi et il a changé une seule lettre en fait. Voilà, j'avais écrit des angles un peu noircis et lui il a changé en des ongles un peu noircis et j'ai vu toute la méticulosité qui pouvait être la sienne peut-être à relire et à se dire tiens si on changeait cette lettre là qu'est-ce que ça donnerait. Et puis ça avait commencé où je me suis dit au début ça va être compliqué parce que il y avait cette première phrase mon ange je t'ai haï. Et lui m'a dit, je connais pas la haine, donc je vais pas pouvoir chanter le verbe haïr, faut trouver autre chose. Merde. Donc on a commencé à essayer de trouver des choses, et puis ça a duré, je pense, une heure et demie, juste sur cette phrase. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, je trouve rien de mieux. Il m'a dit, écoute, on va faire ça. Alors, phrase suivante. Oh putain. Et en fait, après, on a déroulé, tout allait bien. Mais il fallait que je justifie donc là, pourquoi j'avais employé tel mot à telle place.
On avait deux garçons face à un texte. Il y avait pas encore de musique.
Non.
Est-ce qu'elle vient, la musique?
Elle vient plus tard, elle vient, alors j'ai toujours un peu de mal avec la chronologie, mais je dirais 10-15 jours plus tard, il m'appelle en me disant, j'ai des choses à te faire écouter, est-ce que tu veux venir prendre un café? Oui.
Un litre et demi de café.
Voilà, c'était une période où j'étais un peu stressé dans ma vie du coup. Et puis il me fait écouter Tant de nuits et je trouve ça super.
Ma peau va te plaire, c'est ce qu'on peut entendre dans En amont, texte de Joseph Danvers, vous l'avez compris, musique d'Alain Bachung. Ce serait bien que vous gagniez ce micro là-bas, vous voyez juste à côté de vous, alors, que vous saisissiez la guitare.
La précision, c'est qu'en fait, du coup, la version que je vais faire, c'est la chanson que moi j'ai faite sur mon album en 2010, avant que celle-ci soit réarrangée, réorchestrée et complètement modifiée par Edith cette année.
Edith Sambuena, ouais. Qui a pris en charge les maquettes de Bachung, en accord avec Chloé Mons, sa dernière épouse, et qui nous propose ce disque En amont. Mesdames, Messieurs, Joseph Danvers. Thank you.
Je suis cette femme à qui l'on ne promet rien. Je suis cette femme qu'on ne prend pas par la main. Je suis cette femme qui ne vaut presque rien. Je suis cette femme qui se donne du bien. Je suis cette femme que tu regardes parfois. Je suis cette femme à qui tu ne causes pas. Je suis cette femme qui se blesse à chaque pas. Je suis cette femme qui ne dort plus chez soi. Serre-moi encore. Et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre comme un semblant d'aurore. Je suis cette femme presque belle, regarde bien. Je suis cette femme forte de n'avoir plus rien. Je suis cette femme dont les hommes ont besoin. Je suis cette femme, la maman, la putain. Serre-moi encore, et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre, comme un semblant d'aurore. Je suis cette femme que le pavé a tué. Je suis cette femme aux mille années volées. Je suis cette femme que les anges ont damnée. Je suis cette femme que la nuit va emmener. Serre-moi encore. Et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre comme un semblant d'aurore. Serre-moi encore. Et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre comme un semblant d'aurore.
Joseph d'Anvers. Joseph d'Anvers qui a du mérite parce qu'il nous a appelé hier pour nous dire « Voilà, je me suis blessé au pouce, le majeur. » Il a d'ailleurs un gros pansement, regardez, que lui a fait sa mère. Et ça s'est bien passé quand même.
Tu m'as fait ma mère.
C'est du chiquet, c'est du chiquet.
Non, non, c'est du chiquet. C'est pour faire artiste, hein, Boris Bergman. Vous oui. écoutiez le tendre commentaire et souvenir d'un de ses derniers paroliers. Vous avez eu une histoire évidemment très différente. Vous le rencontrez quand Bachung a déjà roulé sa bosse. Vous allez faire un premier disque ensemble qui s'intitule Roman Photo, qui va pas marcher très bien, mais en tout cas, vous démarrez ensemble. Vous nous avez dit on était has-been. C'est vrai qu'il avait déjà fait pas mal de choses. Et oui, on en parlera avec son biographe, qui n'avait pas eu de succès. Qu'est-ce qu'il vous demande?
Je vais essayer d'être court. Je voudrais en profiter pour dire que, avant moi, il y a eu un monsieur qui s'appelait Michel Bernard, qui a écrit les textes pour Alain, car, n'en déplaise à la légende, Alain n'était pas parolier encore à l'époque. Donc il y a un monsieur qui s'appelait Michel Bernard, qui a amené Alain Bachung à Francis Dreyfus, avec lequel ils ont fait pas mal de chansons ensemble. Après, à Norbert Saada, qui avait une compagnie, une société d'édition qui s'appelait La Compagnie. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'ils ont fait beaucoup de chansons pour Dick Rivers ensemble, dont Alain est devenu producteur. Moi, j'ai rencontré Alain par le biais de la femme de Andy Scott, qui était un grand producteur de l'époque. Alain est venu à la maison, et à l'époque, Alain m'a demandé de faire des textes. Alain, à l'époque, n'écrivait pas. Il n'avait pas envie d'écrire. On parle de Alain Chanteur, on parle de Alain qui avait une voix incroyable. Enfin, quand si vous réécoutez sa version de Stilenhardt, il est capable de monter presque à 2 octaves, je crois.
On écoutera dans un instant les premiers
bachons. Mais ce qu'on oublie, et c'est vrai qu'en France, c'est pas, on est dans le pays du texte, on oublie qu'Alain était un grand producteur au sens anglais du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait, quand il me demandait une chanson et quand il me demandait de changer, comme il a demandé à Joseph d'Anvers, ici présent, il avait déjà l'ensemble musical derrière. Mais si j'explique pourquoi, quand les gens me disent « mais Alain, il écrivait pas avec toi », non, il me faisait refaire, mais il écrivait pas avec moi. Et pour une raison bien simple, c'est que nous étions des enfants du rock, mais des enfants quand même, et que Alain, la chose qu'il aimait le plus au monde, et je pense que Pierre le confirmera, c'est qu'il aimait être surpris. Il aimait être surpris par lui-même, c'est pour ça que un coup il faisait un disque solaire comme Roman Photo, un disque un peu plus noir comme Roulette Russe, un disque un peu plus heureux comme Pizza. Mais ce qui était intéressant, ce que je dis toujours, c'est que même s'il avait quelquefois sur... Nous on a travaillé dans tous les sens ensemble. Hein.
Dans tous les sens, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que un coup il mettait la musique sur un texte, un coup c'est moi qui mettais des paroles sur quelque chose qui n'était pas tout à fait une musique, qui était un backing, comme on dit. Il y avait des orchestrations, des choses comme ça. Et pour moi, le bonheur aussi de l'enfant qui, au bout d'une heure, a une chanson devant lui qu'il n'avait pas prévu d'avoir, c'était quand il prenait ma Framus, qui est une vieille guitare de Manchard. C'était devenu un objet très rare aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la guitare des gens qui chantaient dans la rue, hein, c'est ça. Et il me disait, voilà, j'ai ce début musical. Et puis, moi, j'écrivais le texte sur le début musical. Après, il continuait, et c'était un peu comme les enfants, avec les mains, comme ça. Et puis, un peu comme les cadavres excellents.
C'est du collage?
Pas vraiment, non. C'était plus les cadavres et challenge, plus les cadavres exquis.
Oui.
C'est-à-dire que la musique répondait au texte, le texte répondait à la musique. Mais je dis toujours, pour définir vraiment Alain, dans nos rapports, c'est que Alain, même s'il avait une idée d'ambiance ou même de texte, il me le disait pas parce que il avait envie de dire surpris. Alors il me tapait sur la tête, je devenais une petite souris blanche, parce que c'était un manipulateur comme tous les grands metteurs en scène et les chanteurs, hein. Et il me mettait dans le labyrinthe et il se disait, bon, moi j'aimerais bien qu'il aille à droite. Mais si le Bergman il pouvait aller à gauche, peut-être que ça sera pas mal non plus. Après, il a travaillé autrement avec les gens. Comme vous l'avez dit au début, il a pris des bouts de chacun, etc.
Oui,
et tout.
Avec Jean Fauque, entre autres.
Mais j'en profite puisque je suis en direct pour le dire, ce n'était pas mon cas. Pardon. Merci.
Pierre Mikhaïlov, c'est vrai qu'il avait cet art des, non pas des collages, mais en tout cas des cadavres exquis, qu'il était d'une exigence sans nom avec la plupart de ses paroliers. Il leur était aussi fidèle, même s'il s'engueulait avec eux parfois. Ça a été le cas avec Bergman. Il avait une continuité de travail.
Bah, à chaque fois, ce sont quand même des très longues relations avec son premier parolier, Michel Bernard. C'est une collaboration qui dure pendant des années. Avec Boris également, et puis avec Jean Fauque aussi. Donc à chaque fois, c'est vraiment un rapport d'amitié, un rapport de complicité qui dure très très longtemps. Et effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui a... De toute façon, pour moi, c'est un coureur de fond. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour faire les choses, pour écrire une chanson, pour enregistrer un album, pour préparer une tournée, préparer une scénographie d'une tournée. Donc,
il faudrait mettre 4-5 ans avant de refaire un disque.
Bah, surtout sur la fin. Sur la fin, il y avait des écarts énormes entre les derniers albums. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passait rien entre les albums. Il y a beaucoup de morceaux qui étaient composés, écrits, maquettés, et qui étaient remisés dans des tiroirs, voire à la poubelle, ou dans des tiroirs comme cet album qui ressort aujourd'hui. Donc il y a énormément de choses qui restaient dans les caves, dans les greniers, qu'il n'utilisait pas.
Il faut parler, Pierre Mikhaïlov, pour bien saisir le cas Bachung de son enfance. Il a une mère qui a un enfant, deux pères inconnus pour Bachung. Il ne saura jamais vraiment l'identité de son père. Il apprendra par un oncle que cet homme était kabyle, que sa mère a peut-être rencontré à l'usine. Mais en tout cas, elle se marie avec un homme qui va élever cet enfant, mais qui d'abord va être envoyé chez ses grands-parents en Alsace. Ça va être extrêmement important comme expérience. Qu'est-ce qui sera le plus important là-bas? Il répond toujours, c'était l'ennui, ma vie pendant 11 ans.
Bah, c'est ce que j'allais dire. pour lui, cette enfance, ces 12 années qu'il va passer en Alsace, dans un petit village de 600 ou 800 âmes, c'est vraiment...
À côté de Strasbourg.
Voilà, à côté de Strasbourg, mais plus exactement à côté de Colmar. C'est vraiment la grisaille, l'ennui. C'est une famille qui est complètement... dont l'art est complètement absent de ce foyer, donc il a aucun accès à la musique, à la littérature. Le seul petit magasin du village vend quelques bandes dessinées, donc son seul accès à l'écrit, c'est ça.
Il rêve de jouer du violon de l'oncle, mais c'est à l'oncle, on n'a pas le droit d'y toucher.
Absolument, il y a un violon qui traîne dans cette maison, mais il n'a pas le droit d'y toucher. Donc le premier instrument qu'il va pouvoir s'approprier, c'est un harmonica.
Ah oui.
Ça sera son premier contact avec la musique.
Que son beau-père lui offre.
Que son beau-père lui offre, et puis chanter en tant qu'enfant de chœur à l'église. Et ça va aussi marquer sa technique vocale, cet apprentissage d'enfant de chœur. Et puis il y a aussi une chose qui est très importante dans son enfance, c'est la frontière allemande. Mmh. Et puis ces radios allemandes qui captent, et c'est toute cette culture qu'il a de la chanson populaire allemande qui va le toucher avant même la chanson française.
Mais le rock aussi américain arrive à ses oreilles.
Alors ce qui se passe aussi, c'est que en Europe, il y a énormément de bases de l'OTAN, et il y a des émissions de radio qui sont faites spécialement pour ces militaires, ces GI américains. Et là, il écoute du rock'n'roll.
Notamment
Gene
Vincent.
Notamment Gene Vincent.
Et il a dit jusqu'à la fin de sa vie, Alain Bachou, que quand il écoutait Bebop et Lula, il avait la même émotion que quand il était enfant.
Well, Bebop et Lula, she's my baby. Bebop et Lula, I don't remember. Bebop et Lula, she's my baby. Bebop et Lula, I don't remember. Bebop et Lula.
Musicien américain, qui auriez-vous aimé être et pourquoi ?
Bon, je crois que j'aurais bien voulu être l'artiste Jimi Hendrix, à la limite. Ouais. On connaît sa musique, hein. On connaît aussi ses attitudes scéniques où il prenait sa guitare, il mettait le feu, tout ça. Alors ça, c'est une partie de lui, et j'ai l'impression que ça devait lui peser, c'est-à-dire les gens venaient le voir, à la limite, à l'époque, pour le voir casser des guitares, pour le voir foutre le feu à la scène. Et en fait, c'est sûrement un garçon très timide, qui était plus proche du sorcier visionnaire. Il a réinventé la guitare. Et je crois que ce feeling correspond parce qu'il pouvait être à la fois très doux et complètement exacerbé. Et ces deux choses-là sont un peu... Moi, je navigue dans ma vie quotidienne au milieu, un petit peu comme tout le monde, mais... Je me sens parfois complètement fragile, et puis parfois j'explose complètement. Donc j'ai un petit peu ces deux excès en moi aussi.
Voilà, Joseph Danvers aurait voulu être Alain Bachung, et Bachung aurait voulu être Jimi Hendrix. Est-ce que la culture américaine, est-ce que le rock, est-ce que la country, le blues était extrêmement présent dans votre vie de couple, si j'ose dire, Boris Bergman et Alain Bachung?
Ah oui, complètement. Complètement. C'est-à-dire que, évidemment, ici, on a le droit de, vis-à-vis des ayatollahs du rock'n'roll, on a le droit d'aimer le country, mais faut pas l'appeler comme ça. Gabi, Vertige de l'amour sont des mélodies country. On écoutait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une des chansons préférées d'Alain était la chanson de Dean Martin dans Rio Bravo avec Ricky Nelson. Bon, comme je le disais off tout à l'heure, c'est vrai qu'il aimait tellement Gene Vincent quand il a tourné dans Nestor Burma. Il s'est fait appeler Beau Cradock. Cradock est dans le vrai nom de Gene Vincent. Mais je me rappelle, malheureusement, je suis le dernier survivant de cette petite virée. On est parti de Los Angeles à Carmel et à San Francisco. C'était pendant l'écriture de Novice, donc qui devait être le dernier album ensemble.
En 89,
et,
ouais.
Et on a écouté la chaîne Country. Alors il adorait ça. Mais
il était très poreux, au fond, la musique qu'il écoutait. Ça pouvait rejaillir autrement, mais ça venait de là.
Bah, écoutez, vous savez, c'est ce qu'a dit Pierre tout à l'heure. C'est-à-dire que dans les rues de Strasbourg, il parlait allemand ou alsacien. D'ailleurs, il parlait parfaitement allemand. On a fait une chanson pour un téléfilm qui parlait d'un athlète qui avait passé le mur avec une perche, merci, oui. Et il m'avait demandé de faire un texte allemand. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis comment le mec est arrivé de l'autre côté quand même. Ça, c'est ça, c'est autre chose. Mais à l'époque, l'allemand était très très présent. D'ailleurs, il y a une autre chanson qui est Junge Männer. L'allemand était très présent. Et comme l'allemand et l'anglais sont quand même les mêmes filles de la même langue, hein, Je pense que ça a beaucoup aidé dans le phrasé. Et effectivement, si je peux encore faire une parenthèse, il va y avoir une intégrale qui va sortir, je vous l'annonce maintenant, je pense au printemps, et j'ai retrouvé la maquette de la chanson Racine, qui était chantée dans le film, dans les téléfilms, pardon. Le feuilleton, on n'appelait pas ça une série encore à l'époque. Et je vois Alain jouer de la guitare. Je sais pas, mais je trouve que c'était un bon guitariste. Il y a au premier rang là, il y a Richard Mortier qui est le guitariste le plus
qu'on salue, un grand guitariste et grand proche de Bachung. Ils ont beaucoup travaillé ensemble.
Et je lui ai demandé tout à l'heure, j'ai dit mais attends, je m'en suis pas aperçu, mais j'ai réécouté la maquette il y a deux jours. Alain était un super guitariste country, il faisait du picking et machin. Et je suis content de pouvoir dire. D'habitude on me coupe quand je dis ça, alors là je suis en direct, pardon, j'en profite.
Oui, mais enfin n'en profitez pas.
Je suis content, Vincent. Je suis content de pouvoir vous dire que. On écoutait beaucoup de country, on écoutait Willie Nelson, on écoutait du country rock, on écoutait la période country de Elvis Presley. Je ne comprends pas pourquoi les gens ici, les ayatollahs du rock, n'aiment pas le country. Aimer le country, ça ne veut pas forcément dire qu'on est plus à droite que les toilettes de Trump.
Je comprends la formule pas, est mais belle. Bon,
pourquoi pas?
On va écouter les premiers disques. Vous ne les connaissez pas forcément, à part ses grands, grands fans, les premiers disques. D'abord, il a pas mal renié, hein, Pierre Mikhaïlov, tout ce qu'il avait pu faire.
Oui, parce que c'est vrai.
Finalement,
que...
avant sa collaboration avec Bergman, officiellement,
oui,
c'est ça?
Absolument, hein. Sa carrière démarre encore en 1966. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'une intégrale d'Alain Bachung, c'est un petit peu un mensonge, parce qu'il y a tous ces singles omis, tous ces singles occultés. Il y en a 7, je crois, de mémoire, qui l'enregistrent depuis 1966 pour divers labels, et qui sont...
Il s'accroche, il n'a pas de succès, mais il s'accroche.
Mais pendant 14 ans, voilà, pendant 14 ans, il
c'est
a
énorme.
Une carrière discographique où il essaie toutes sortes de tentatives musicales, il essaie même un disque de crooner, il essaie des disques sous pseudonyme.
Et on l'oblige un peu à enregistrer certains disques. Hein.
Absolument, parce qu'à l'époque, les artistes n'ont absolument aucune liberté artistique, on est signé, on vous met en contact avec un arrangeur que parfois vous ne rencontrez pas, qui écrit dans son coin des partitions. Vous avez 4 heures pour enregistrer 2 titres et vous enregistrez avec des musiciens que vous ne connaissez pas. On vous fournit un parolier aussi que vous n'avez pas rencontré, qui vous fournit un texte. D'ailleurs, Boris, bien avant de rencontrer Alain Bachung physiquement, lui fournit un texte pour un 45 tours au tout début des années 70. Donc le show business fonctionnait comme ça à l'époque. Les artistes n'avaient aucune liberté artistique. C'était extrêmement frustrant.
Et bien voici quelques chansons de Bachung à ses débuts. Vous allez voir, c'est un florilège qui couvre une dizaine d'années, de 68 à 77. Et on commence avec « Pourquoi rêvez-vous des États-Unis ?»
Pourquoi rêvez-vous des États-Unis ? Chez nous, il y a tout, sauf en plus petit. Ils sont devenus légendaires, les voleurs de Chicago, nos agences immobilières, les patrons sûrement bientôt.
2 ans après, il chante « Les romantiques ». En 1973, il est Robespierre dans la comédie musicale La Révolution française. En 1975, Je ne croirai jamais plus à l'amour. En 1977, roman photo en duo avec Valérie Lagrange.
Toi et moi, pas besoin d'aller chercher le bonheur plus loin. Il est là, bien à l'abri des rideaux du Chine.
Joseph Dambert, Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous venez d'entendre là? Vous, on vous a pas imposé des chansons comme ça.
Pourquoi, hein, pourquoi j'ai ce genre de questions, moi, franchement?
Parce que ça a changé quand même l'industrie du disque.
Non, non, c'est marrant de voir l'évolution, de l'animal, on va dire.
Vous connaissiez tout ça?
Non.
Non.
Non, non. À partir de romans photo, oui, je commence un peu
si
à connaître.
Si vous aviez connu, vous auriez quand même écrit des textes à Bachoum, j'espère.
Ah, il est parti, je crois. non, évidemment, oui, non, mais j'avais entendu plein de choses. D'ailleurs, c'est Pierre, tu m'avais fait écouter des choses.
Pierre Mikhailov, le biographe. Il avait fait sous le nom de Monkey Business, qui était des choses aussi comme ça.
Un titre avec paille dedans, je sais plus ce que c'était. Tu m'avais parlé d'une chanson.
Oui, il y avait une histoire de paille aussi, effectivement.
Voilà, il y avait la paille aux cheveux.
La paille aux cheveux.
Repasser le bébé là.
Mais la voix est quand même très intéressante. Hein.
Oui, mais là, on entend dans la chanson qui fait une chanson dans un style très crooner, on entend ses possibilités vocales. Il peut chanter avec un côté très éraillé, très rock, et puis une façon très pure aussi.
Mais pourquoi il s'accroche pendant 14 ans? Parce qu'il sait qu'il peut faire autre chose que ça. Il est sûr de ce qu'il peut donner par la suite, tout de suite.
Oui, mais je crois qu'en lui, il a cette capacité à savoir qu'à un moment donné, il va percer. Il a cette ténacité. On continue pas pendant 14 ans. En accumulant des insuccès, si on n'a pas en soi la conviction, la foi quelque part que ça va finir par s'éclaircir. Mais
il est aussi producteur de Dick Rivers, Boris Bergman le rappelait, hein.
Absolument.
Ça lui prend du temps aussi.
Au milieu des années 70, il va devenir le réalisateur des albums de Dick Rivers, c'est lui écrire des chansons avec Michel Bernard aussi. C'est parce que tous les moyens sont bons pour gagner sa vie et rester dans l'industrie musicale, parce qu'il veut pas lâcher le morceau. Il a qu'une hantise depuis son enfance, c'est de se retrouver dans un bureau et, comme il dit, manger un sandwich en une demi-heure et classer des papiers. Donc il a vraiment, depuis qu'il est ado, cette envie de faire de la musique.
Mais sa chance, et je parle devant lui, je vais le faire rougir, c'est d'avoir rencontré Bergman. Ça bien change sûr, sa vie sûr, et sa chanson.
Bien sûr. À tous les deux. D'ailleurs, Boris peut vous le dire mieux que moi, c'est que ça change leur vie à tous les deux, absolument.
Boris Bergman, est-ce que vous avez du succès tout de suite avec Bachoum?
On a un succès d'estime. On a un succès d'estime. On fait un an chez Barclay, Eddie. Et après, on nous renvoie, quand on est renvoyé par Jean Fernandez, qui était un mec charmant, mais qui était le directeur artistique d'Eddie Mitchell à l'époque, mais bon. Et on végète pendant un an. On est signé par quelqu'un auquel on doit la signature, qui s'appelle Gérard Baquet, qui est le dernier chanteur des Chats Sauvages, et qui va signer Alain sur 12 titres, dont aucun ne sera là à l'arrivée.
Déjà.
C'était vachement sympa. Et parce que Alain, effectivement, savait exactement ce qu'il voulait. Moi, je veux dire, les deux mots que je retiens d'Alain, c'est. D'abord, il me disait note pépère quand je disais une connerie. Je disais, mais attends, on va le mettre dans les chansons, ça.
Note oui, pépère, il vous dit.
Note pépère, oui. Je sais, c'est pas très flatteur, mais bon. Et après, le mot le plus important qu'Alain m'ait dit, mais pendant les 15, 16 ans où j'ai travaillé avec lui, c'est chiche.
Ouais.
Et on va faire un disque qui va être un peu un disque de bien vu par Libération, etc. Thierry Aupet, que je salue aujourd'hui, qui n'est plus avec nous, a fait un quart de page, mais qui a son petit effet. Et puis, un jour, Gérard Baquet nous convoque et nous dit « Écoutez les enfants, on veut vous rendre le contrat. Je viens de piquer du fric sur le budget de Paul Moria, qui faisait des instrumentaux à l'époque. » Vous avez une dernière chance. Je vous donne le budget pour un simple, mais si ce simple ne marche pas.
Et c'est Gabi.
Et c'était Gabi.
Ouais.
Gabi ou Gabi, ouais.
Et puis Vertige de l'amour, ça se passe comment?
Alors Vertige de l'amour, c'est. Alors Vertige de l'amour, bon, pardon si je radote.
En une minute,
je vais essayer. Vertige de l'amour, on fait une chanson qui s'appelle Attention fragile. On part à Londres pour l'enregistrer. Au moment où on sort les bagages du coffre, on entend une chanson de Lavilliers qui s'appelle Attention fragile. Et là, Alain me regarde, Laurel et Hardy. Moi, c'est moi qui faisais Laurel. Hein. Laurel et Hardy, et je comprends que je vais être obligé de voilà. Et puis, je vais, pendant qu'Alain travaille en studio Maison Rouge, qui était le studio de Jethro Tull, moi, je vais voir Elephant Man. Comme il n'y a personne, je pleure. Et puis, arrivé en studio, je fais le test Vertige de l'amour. Et la dernière touche, c'est que il aimait tout sauf le refrain. Et ce jour-là, coup de bol, au lieu d'avoir un 501, j'avais un 505 avec fermeture éclair. Et je me remonte, ce que vous pensez que je me remonte, et je fais Vertige de l'amour. Et j'entends une voix derrière qui me fait, ça, c'est bien, pépère. Voilà.
« j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la Roquine Carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Tu chopes des souhaits à Saigon. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je vais me découvrir. Au cri du marchand de glace. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend qu'on chante. Et la tranchée.
C'est drôle parce que quand Boris Bergman est censé écouter Vertige de l'amour, il parle avec ses voisins. Vous avez tellement l'habitude de l'écouter. Vous la connaissez? C'est moi qui l'ai faite. Pierre Mikhailov, on a beaucoup demandé à Bachung et à Bergman de refaire la même chose, de prendre ce succès et d'en faire une recette. Et Boris le disait tout à l'heure, et c'était hors de question de refaire la même chose dans sa carrière.
Absolument. Alain Bachung, c'est quelqu'un qui voulait pas refaire, surtout pas refaire la même chose. Déjà, pour lui, son combat, c'était d'échapper depuis son enfance, c'était d'échapper à une vie monotone, à une vie programmée.
De retrouver l'ennui de son enfance.
Voilà. Et donc, en musique, pour lui, c'était tout l'inverse. C'était à chaque fois se réinventer un nouvel univers musical.
Moi, je le vois comme quelqu'un dans un laboratoire en permanence.
C'est ça. Ben, c'est exactement sa façon de travailler, surtout avec le temps, quand il a eu de plus en plus de moyens. C'était de rester longtemps, de passer du temps en studio, d'essayer des musiciens, d'essayer des réalisateurs, d'essayer des tas de configurations possibles, jusqu'à ce qu'il entende sur les bandes soit ce qu'il avait en tête au départ. C'est le côté laboratoire est tout à fait exact.
Ouais. On écoutera tout à l'heure, si vous le voulez bien, un autre parolier important de la vie de Bachung, c'est Jean Faulque. Mais je voudrais qu'on écoute d'ores et déjà l'auteur-compositeur-interprète Gérard Manset. Bachung l'a chanté. Il a chanté plusieurs chansons de Manset dans Bleu Pétrole en 2008. Ils se sont toujours admirés, ces deux-là, sans vraiment se fréquenter. Ils ont commencé leur carrière ensemble, d'une certaine manière, dans les années 60. Et chacun, visiblement, s'observait avec pas mal d'affection, mais de loin. Écoutez Gérard Manset.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Gérard Manset, je suis venu avec un livre signé Gérard Manset, Visage d'un dieu inca. C'est un récit que vous écrivez après la mort de Bachung, 2011. Je voudrais qu'on commence cet entretien par une lecture. J'ai repéré quelque chose que j'aimerais que vous nous lisiez.
Eh bien, avec plaisir, une sorte de petite communion avec lui, où il se trouve. Hein. Alors, page 15. Nous ne parlions pas de musique. De quoi alors? Pas de drogue, pas de sexe. Plutôt comme deux lanternes en voie d'être soufflées, mises en veilleuse. Je restais silencieux, j'approuvais. Il était mon cadet, mais j'adoptais devant lui une attitude d'écoute, d'attente respectueuse. À son contact, il m'arrivait de comprendre par un exemple, un simple mot, ce que les petites gens avaient de problèmes et quelquefois de rancœur, mais également d'espoir. Il jouait avec l'ami, regardait un saladier beurrer du pain, demandait un peu de vinaigre aux échalotes ou du citron pour son plateau de fruits de mer. De mon côté, il me voyait verser dans mon Coca Light une quantité égale d'eau plate, et cela le faisait sourire.
Ce que j'entends là, Gérard Manset, c'est votre timidité à tous les deux, l'un avec l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre.
C'est vrai, c'est tout à fait ça. J'avais jamais remarqué que c'était ça, mais voilà, vu de l'extérieur, peut-être c'est ce qui est transparent entre les lignes. Alors, ni lui, ni moi, je crois qu'il ne s'agissait vraiment du terme timidité. Alors, quel serait le bon vocable? Je ne sais pas exactement. Lui était peut-être pas timide, mais en retrait, en réserve, discret. J'avais en plus la réputation, je ne sais pas, d'être quelqu'un d'un peu particulier.
Difficile,
c'est le mot, mais ce qui n'était pas du tout le cas, il s'en est rendu compte très vite.
Vous démarrez une carrière dans les années 60 tous les deux. C'est fou de se dire que c'est en 2008 que de véritables échanges ont lieu entre Gérard Manset et Alain Bashung.
Et avant, on ne s'est jamais parlé. On s'était vu plusieurs fois si justement, hors showbiz, je veux dire, mais voilà, plutôt pour des remises de prix littéraires ou des choses comme ça. Et voilà, et bon, donc on n'était pas, je ne lui étais pas inconnu, disons, mais je crois qu'il a attendu pour me contacter d'avoir terminé avec les équipes précédentes. D'ailleurs, il me l'avait dit à un moment, voilà, il n'aimait pas changer d'équipe d'auteur. Quand il avait un auteur, il restait avec lui. Et puis bon, voilà, donc...
Les trois chansons qu'il enregistre de Manset dans Bleu Pétrole, Il voyage en solitaire, Vénus, Comme un Lego... Et je tuerai la pianiste aussi, vous avez raison.
On s'est vu très peu, hein. Je lui avais donné les titres, il les a fait de son côté. Quand ça a été terminé, j'ai tout écouté, mais je ne suis ni intervenu et je ne voulais pas entendre parler de quoi que ce soit avant que ce soit ou fini ou pas fini. Mais en tout cas, à l'occasion de Bleu Pétrole, il m'est arrivé à ce moment-là de voir, peut-être à la télé, je me souviens plus trop, toute cette époque extraordinaire des années précédentes, là... C'est comment qu'on freine et tout ça. Là. Enfin bon, tous ces titres-là qui étaient extraordinaires. Bergman, voilà, je cherchais le mot. Là. Les textes de Bergman, toute cette époque extraordinaire. J'étais absolument admiratif. D'abord, je l'ai trouvé très très beau, magique, de côté félin comme ça, très gracieux. Sa lèvre kabyle, je crois, quelque chose comme ça. Mais étonnant, quoi. Enfin, un faciès très différent de... Et donc le phrasé qui venait s'ajouter là-dessus. Bon, enfin voilà, j'étais admiratif de cette manière qu'il avait de s'approprier. Là, le terme n'est pas impropre, on dit ça de beaucoup de gens, mais non, lui s'appropriait réellement le matériel que vous lui confiez. Et donc, il remâchonnait quelques mots, il déplaçait quelquefois une phrase, ou alors il intervenait sur la musique. Lui-même était musicien, mais il ne composait pas toujours les chansons qu'il chantait. Bon, comme un Lego, c'est une chanson où il n'y a qu'une tournerie de guitare sèche et tout ça. Donc, il y a sa version, je la lui ai laissée avant de sortir la mienne. J'avais déjà enregistré la mienne quand je la lui ai donnée, mais je l'ai gardée pour un album ultérieur. Et donc, quand j'ai sorti la mienne, je me suis rendu compte, je n'avais pas remarqué à ce moment-là que... Il avait changé une harmonie dans les refrains. Moi, je suis toujours en do, mi mineur, la mineur, et lui passe en sol. Deux, trois fois, il passe en sol. Et donc, voilà, une sorte de coquetterie très inventive qui relance le titre et qui, dans son cas, est positive.
Je pose la question à toutes les personnes qui l'ont connu et admiré, et vous faites partie de ces personnes-là. Qu'est-ce qui vous manque de lui? Qu'est-ce qui manque de Bashung?
Alors, qu'est-ce qui manque? Ça manque dans beaucoup de domaines artistiques d'aujourd'hui. Il était quand même le représentant d'une certaine liberté. C'est pas un mot galvaudé avec lui, ça l'est avec beaucoup. C'est-à-dire que ses albums prenaient beaucoup de temps. Hein. Il était tâcheron, tatillon, exigeant, mais avec lui-même, hein, pas tellement, enfin aussi peut-être avec les autres. Moi, je ne sais pas, j'ai pas eu ces contacts-là. Mais en tout cas... il avait une idée en tête, il savait pas trop quelquefois comment l'exprimer, donc il rabotait, c'était un peu rodin, il taillait à droite à gauche, et puis quand même, ça finissait par se dessiner comme il l'entendait. Donc il a eu pas mal d'albums très personnels, très intéressants sur le plan littéraire, français, les textes étaient très bien, voilà. On ne peut pas dire ça de beaucoup d'artistes aujourd'hui, donc voilà.
Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Et puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Et voilà le miracle en somme, c'est lorsque sa chanson est bonne. Car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante la terre.
Voyage en solitaire, la chanson de Gérard Manset, chantée par Bachung. Manset qui sort un nouveau disque, qui vient de sortir un nouveau disque à bord du Blossom. Je vais vous remercier beaucoup d'être venu, Boris Bergman, avec votre chapeau gris en feutre. N'hésitez pas à partir avec une ou deux chouquettes. Il est très beau, votre chapeau. Merci, Joseph Danvers, qui, malgré son doigt blessé, est venu chanter. Je précise qu'on vous retrouve dans le disque que chante Bachung, en amont, un disque France Inter. Vous voulez bien rester avec nous, Pierre Mihailov?
Avec plaisir.
On se retrouve juste après les infos. Nous parlons dans le grand atelier des mots, de l'amour que portait à la langue française le musicien Alain Bachung, évocation de sa carrière, vous l'avez compris, de sa mémoire, avec des témoins de sa vie et de son talent. Pierre Mihailov, auteur de Bachung, Vertige de la vie, vous êtes resté avec nous. Bonjour Madame Claire Denis.
Bonjour.
Vous avez tourné un clip avec Bachung, le clip de Faites monter, et je crois que vous êtes fan depuis toujours, vous nous le direz dans un instant. Mmh. À votre droite, très sérieux avec des lunettes, c'est Jean-Claude Galota. Bonjour Monsieur le chorégraphe.
Bonjour.
Nan, nos chorégraphes français les plus amoureux du rock. Vous avez créé un ballet sur l'homme à tête de chou avec comme bande-son, c'était en 2009, la musique de Gainsbourg, reprise, chantée par Bachung, spectacle qui sera repris l'année prochaine. Et un des musiciens du groupe de rock français Radio Elvis est là aussi. Bienvenue, Pierre Guénard.
Bonjour, merci.
Vous avez une jolie veste. Je vous la piquerai tout à l'heure. Vous nous ferez surtout l'amitié de chanter du Bachung dans le Grand Atelier. Alors, monsieur le biographe Pierre Mikhaïlov, on entendait tout à l'heure Bachung évoquer sa dernière tournée et dire à quel point il avait reçu des brassées d'amour. Je crois d'ailleurs que sa veuve, Chloé Mons, sa troisième épouse, a dit que la tournée de Bleu Pétrole et d'autres titres, bien sûr, l'a prolongée de plusieurs mois. Vous avez eu cette conscience, vous, le biographe, que être en scène, en communion avec le public, le tenait debout?
Oui, absolument. C'était essentiel pour lui d'avoir toujours des projets, de regarder devant lui et de pas se dire que son avenir se limitait au jour présent. Non, c'était très important. Puis il y avait à chaque fois qu'il se produisait sur scène une sorte d'échange d'énergie avec le public. On avait l'impression que le public lui transmettait l'énergie pour continuer. Donc c'était extrêmement important d'avoir dans la tête des projets, deux prochains concerts, un prochain album. Il se projetait toujours dans le futur, et ça, effectivement, Chloé Mons a mille fois raison lorsqu'elle dit ça, bien sûr.
Il paraît qu'il allait en chimio à l'hôpital, qu'il allait ensuite en scène et qu'il reprenait un avion pour aller chanter ailleurs.
Ouais, non, c'est absolument hallucinant.
Et qu'il y avait de la joie.
Absolument. Il faisait pas sentir à ses musiciens ou au public l'état dramatique dans lequel il se trouvait. Et ce qui est hallucinant dans l'état où il était, c'était de sortir de l'hôpital, de monter dans un hélicoptère ou dans un jet privé et de se retrouver aux Francofolies de La Rochelle ou à l'Olympia ou partout en France. C'était assez incroyable, cette énergie qu'il arrivait à puiser, on ne sait pas d'où, dans la musique, dans le public,
Claire Denis, vous l'avez vu, ce dernier concert? Vous avez assisté à l'une des dates en tournée?
Un dernier, oui, oui.
On se souvient de son visage assez famélique, de ce chapeau, de ses lunettes noires.
Ouais, moi je voulais pas. Moi aussi j'ai besoin de me projeter dans le futur. Je sentais à quel point Alain et Chloé, ou plutôt Chloé et Alain, main dans la main, faisaient ce trajet. Voilà. Je crois que c'est vital pour tous les êtres humains peuvent le comprendre, ça. Comment on pourrait se résigner? On n'est pas fait pour être mourant. On est fait pour être vivant. Je crois qu'Alain présentait toute cette force d'un vrai vivant, quoi, pour moi.
Est-ce que ce vrai vivant, vous l'avez vu en scène, Pierre, de Radio Elvis?
Non, malheureusement.
En 2008, vous aviez quel âge? 2008-2009?
J'avais 22 ans, 21 ans. Et je m'apprêtais à venir à Paris. J'étais à Berlin à l'époque, pour essayer de... J'écoutais beaucoup Nick Cave à l'époque et je voulais voir un peu à quoi ressemblait Berlin. Et j'écoutais énormément Bachung aussi. Et il est décédé quelques mois avant que j'arrive à Paris. Et mon rêve, c'était vraiment de... Déjà, je voulais le voir sur scène et je rêvais de le rencontrer un jour. Et puis de lui faire écouter ma musique ou d'espérer avoir sa reconnaissance un jour.
Joseph d'Anvers l'a fait. Hein.
Voilà, il a beaucoup de chance. Ce que je me suis dit quand il est décédé, finalement, c'est j'avais pas eu l'occasion de vivre l'époque Gainsbourg, de vivre en même temps que Jacques Brel, de respirer le même air que ces personnes-là. Et quand il est parti, je me suis tout de suite dit, au moins j'aurais été un de ses contemporains, j'aurais pu écouter ses disques de son vivant. Et c'est quelque chose déjà de merveilleux. Et puis je voulais vraiment marcher sur ses pas, moi, en venant à Paris. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais essayer de faire comme lui.
Est-ce que vous chantiez comme lui avec une raquette de tennis quand vous étiez enfant? Comme Joseph d'Anvers?
Moi aussi, je voulais devenir pompier. J'ai commencé par être pompier d'ailleurs, et après, j'ai devenu musicien. Mais, non, Bachung, je l'ai découvert un peu sur le tard. Et ce qui m'avait marqué, c'était ses mots, justement. Et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie provocation dans les mots.
Je précise que vous êtes auteur dans le groupe, hein.
Oui, c'est ça. Et ce que j'aimais chez lui, c'est qu'au début, ça me faisait rire. J'avais un peu peur d'écouter Bachung. Dans des réflexes de post-adolescent, j'avais envie de me dire, oh la honte de chanter ça. Et en même temps, ça me fascinait parce que je me disais, comment on peut chanter des mots pareils? Je trouvais qu'il y avait une vraie, une sorte de rébellion, en fait, dans ces mots.
On va écouter dans un instant le témoignage, on parle des mots, d'un autre parolier qui, après Boris Bergman, a beaucoup compté dans la vie de Bachung, c'est Jean Fauque. Ils se sont connus dans les années 70. Fauque a été vraiment un ami très proche avant d'écrire pour Bachung des chansons et des disques. On écoute leur premier tube en duo, 91, Osez Joséphine.
On devine des monarques et leurs figurines. Je ne suis qu'une paire de demi-dieux livrée à eux.
ils font des ennuis. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénéra, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le sourire, usez les huriers, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez Joséphine, osez. Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, 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 osez. Osez, osez Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Claire Denis, ça vous donne envie de danser?
Ouais, c'est inouï. Cette façon qu'il a de prononcer les mots, c'est le français, la langue qu'on connaît, mais rien ne s'oppose à la nuit. Comme il le dit, je pense toujours à cette chose quand il dit un baiser, un coup de latte, dans une autre chanson, Caravane, je crois. Je me dis toujours, il dit coup de latte. Il a une façon de dire le français, de dire les mots qu'on connaît, et il nous les fait redécouvrir.
Pierre Mikhaïlov, Jean Fauque, il entre dans sa vie.
Alors, oui, dans les années 70. Fauque, voilà. En fait, il se rencontre en 1975. Et là aussi, il va y avoir une très longue gestation avant que Jean Fauque ne se sente mûr pour écrire ou que Alain Bachung sente que Jean Fauque est prêt à écrire pour lui.
Il fait beaucoup de choses pour lui.
Mais hein, ils vont quand même.
Il conduit la voiture.
Absolument.
Il est son confident.
Voilà. Ben, en fait, ils découvrent qu'ils habitent très près l'un de l'autre. Ils vont se voir beaucoup, passer des nuits entières à écouter des disques et à boire beaucoup de bière et à faire des omelettes. Donc, c'est leur première création, en fait, ce ne sont pas des chansons, mais des énormes omelettes. Et en fait, Jean Fauque va l'aider pour faire ses maquettes, va conduire le camion quand il partira en tournée, avant qu'il y ait vraiment des budgets pour faire des tournées conséquentes. Donc, on s'entasse dans un petit bus Citroën et on sillonne la France avec une sono pourrie, achetée d'occasion au chanteur d'Ève, enfin voilà, avec vraiment les moyens du bord.
Et puis, il fait partie de ces ciseleurs de mots de Bachung, hein, avec ses voilà. Allitérations, ses associations d'idées.
Absolument. Et alors là, Alain Bachung va retrouver une façon de travailler qu'il avait déjà inaugurée avec Serge Gainsbourg, c'est-à-dire qu'ils vont écrire à deux, ils vont écrire en ping-pong. Bachung a des petits carnets et il note des phrases, des idées de titres, des idées d'ambiance. Et avec Jean Fauque, voilà, petit à petit, ils construisent les chansons en faisant une sorte de ping-pong.
Mais il est venu il y a quelques jours à Radio France pour nous témoigner de son travail et de son amitié avec Bachung.
Ma collaboration effective commence sur Novice. L'album Novice, et puis le premier succès, c'était une merveilleuse aventure, c'était Osez Joséphine, en 1991. Au début, il y a eu planterie un peu sur la tournerie, la fameuse rythmique qui évoque le cheval qui tourne. C'est un truc auquel je tenais, en plus, parce que je trouvais qu'elle était vraiment efficace. Et en plus, c'est moi qui l'avais bricolé, cette rythmique, en trafiquant comme un novice avec un ordinateur MIDI. Et Alain me dit, on avait la chanson déjà existante, mais sur une rythmique qui avait rien à voir, qui était plus new wave, punk, un peu dans la mouvance de l'album précédent. Et il me dit, ça me donne une idée, il me dit, vas-y, renvoie la rythmique, et il prend la guitare, et il dit, allez Berlin. Et puis ça y est, on avait la chanson. Il adorait les jeux de mots. Moi, je passais mon temps à raconter des salades pour le faire rire. J'avais trouvé un bon client à mes vannes qui me venait relativement naturellement.
Est-ce que vous avez des exemples en tête, là, Jean Fauque?
Dans l'évolution des jeux de mots, jeux de sons plutôt, l'astuce c'était de les faire, mais de les sucrer. Et dans sa tête, il me disait, mais nous, on le sait, mais les gens l'entendront, c'est leur inconscient qui va l'entendre. Et l'exemple le plus typique, c'était La nuit, je mens, où moi j'étais fier de ces deux lignes. J'avais trouvé La nuit, je mens, et je mentirais si je disais que je mentir. La nuit, je mens, la nuit, je m'ennuie. En fait, c'était ça. Et lui, il me dit non. Il dit La nuit, je mens, ça suffit. Il dit, tu verras, les gens, ils se feront leur construction toute seule. Et là, c'est l'exemple même de l'écriture vers laquelle, qui était un peu étrange finalement, où on arrivait à dire les choses sans les écrire. Voilà. Je crois qu'il proposait, et puis c'était à l'auditeur de disposer. Il aimait bien quand même, est-ce que c'était un jeu, est-ce que c'était une volonté? Moi, j'ai analysé ça, c'est que le français n'était pas sa langue maternelle, puisqu'il était élevé par un grand-père alsacien et une grand-mère allemande, et je pense que c'est cette langue française, il l'a perçue d'abord comme quelque chose, c'était son aspect, c'était le son qui l'intéressait beaucoup plus que le sens.
Jean Fauque, quand vous dites qu'avec Bachoum, il y avait une émulation artistique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
C'est-à-dire que son exigence était telle. Et d'abord, il fallait quand même être solide, parce que les critiques pouvaient fuser, ou alors pire, le silence. Il avait ce don d'aller faire chercher en soi-même ce qu'on ne pouvait avoir de meilleur. C'était l'école de l'exigence. Et c'est quelque chose que je ne pouvais absolument pas lui reprocher. C'était fatigant. Mais lui, l'avait avec lui-même. C'est-à-dire que quand on entendait un album d'Alain, il faut savoir que derrière, il y avait peut-être 50 maquettes, 50 morceaux. C'était incroyable. La nuit, je mens, c'est 6 ou 7 morceaux différents. 6 ou 7. Avec la thématique centrale du type qui veut, pour retenir son amour, qui s'enfuit, fait des jeux télé un peu bidons, d'aventure, là. Et le mec, après, il est prêt à tout faire. Puis après, ça prend cette dimension historique avec la résistance, tout ça, avec les faux résistants. Ouais, il y avait plein de thématiques dedans. C'est comme dans la plupart.
Jean Fauque, qu'est-ce qui vous manque de Bachoum?
Bah lui, il arrive des fois de me lever en disant tiens, il faut que j'appelle Alain aujourd'hui, et puis le temps de dans la petite minute qui suit le réveil, où on est encore des fois un peu empêtré dans son sommeil, bien sûr, il me manque beaucoup plus que le travail, c'est bien, mais bon, moi c'était l'humain plus que l'artiste.
Pierre Mikhaïlov, si je vous dis Madame Rêve, qu'est-ce que vous répondez?
Je réponds déjà à Pierre Grillet. Et ensuite.
Parolier Pierre Grillet, oui.
Parolier Pierre Grillet. Et ensuite, je dirais que c'est un thème qui est peu abordé dans la chanson française. Et que Bachoum abordait pour la deuxième fois, puisque rappelons que la face B de Gabi s'appelait Elle se fait rougir toute seule. Donc, toujours le même thème de l'onanisme féminin. Et par la voix de Bachoum, par la voix d'un homme, il y a cette extrême sensualité qui est parfaitement rendue, je trouve, qui est très, très touchante.
Madame rêve d'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue,
d'une fusée qui l'épingle au ciel. Au ciel. On est loin des amours de loin. On est loin des amours de loin. Loin.
On est loin.
Madame rêve, ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve, d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh,
le Grand Atelier sur France Inter.
C'était intéressant de voir à quel point on écoutait Jean-Claude Galota les paroles avec énormément d'attention. Et beaucoup d'auditeurs, dont Amélie, nous écrivent « C'est ma chanson préférée ». Ça fait partie aussi de votre panthéon bachungien.
Ah oui, parce que c'est symphonique. C'est comme un ballet pour moi. Je voulais faire quelque chose d'ailleurs.
On pourrait être sur des pointes.
Pourquoi pas, hein. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très lyrique. Et ça montre bien toute la gamme qu'il avait, de passer du rock au country, et puis ça, très très symphonique, magnifique. Quoi,
il dit qu'il a eu l'idée de cette chanson et de travailler donc avec Grier sur ses paroles en tournant un film qui s'intitulait « Rien que des mensonges » de Paul Muret, film dans lequel il donnait la réplique à Fanny Ardant. Et Fanny Ardant a souvent témoigné de ce qu'elle pensait de Bachung.
Vous avez joué aux côtés d'Alain Bachung.
Oui, j'ai adoré cet homme. Parce qu'il a quelque chose d'ironique et très sensible. Donc ce mélange de cérébral et de passionnel. Et c'est vrai que c'est un poète. Il sait utiliser les mots. Même pour la conversation en douce, comme ça, entre deux prises. Je l'aimais beaucoup. Puis j'aimais bien sa dégaine.
Sa dégaine. On parlait de sensualité dans le clip qu'avait tourné Mondino tout à l'heure, Claire Denis. Sa dégaine, vous la croisez quand, vous?
Je voulais juste dire, c'est... Il y a tellement de sensualité, c'est vrai que c'est symphonique. En même temps, il y a peu de personnes qui sont capables, avec des mots, d'exprimer une sensualité aussi forte, quoi. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle au ciel. Je sais pas, pour moi, c'est presque, c'est tellement érotique, c'est tellement fort. La façon de prononcer les mots, ô ciel, voilà. Bon, alors moi, c'est après, bien sûr, je l'ai rencontré.
Vous tournez un clip, clip de la chanson Faites monter en 2002.
Oui, voilà, une production m'a appelé et puis m'a dit qu'Alain voulait me rencontrer. On s'est rencontrés dans un bar d'hôtel, voilà, on a pris un café. Et j'étais très intimidée et lui étant quelqu'un de très réservé, c'était très difficile pour moi de me lancer. C'était une chanson de plus de 4 minutes, c'était une chanson... Et je sentais que dans cette chanson, il y avait une progression, comme une espèce de quête, de montée.
Ça s'appelle « Faites monter » et on voilà. Sent ça aussi dans la chanson.
Voilà. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire. Et donc on a sympathisé avec Chloé. Chloé est dans le film aussi.
Chloé Mons.
Alain, oui. Ouais, Chloé Mons, voilà. Et c'est devenu un petit tournage, presque...
La nuit.
3 nuits. Oui.
On voit une ville assez déserte, il y a Bachung qui erre. Vous le filmez plan serré sur le visage, J'ai l'impression que c'est un vampire. Ben, il est tout blanc.
Il est comme dans le bouquin de Manset. Il a un profil d'un
dieu. De Dieu Inca.
De Dieu Inca, oui, absolument.
Et l'obscurité, si je puis dire, du texte, le fait que ce soit assez abscon, vous êtes laissé porter par ça ?
Ben, j'ai senti qu'il fallait monter. Après, Alain m'a dit avec beaucoup d'humour, il s'est moqué un peu de moi, il m'a dit, tu sais, c'était juste le room service. Faites monter. Alors nous, on avait traversé, on avait quitté Paris, on était allé jusqu'au dans les fortifications
c'est vrai,
au-dessus
c'est une
de Paris
balade.
À l'aube. Mais c'est seulement après qu'il m'a dit, oh, tu sais, c'était juste le room service. Je peux pas dire que j'étais déçue, j'étais un peu terrassée, mais je crois que on l'a filmé bien, lui.
Votre clip est une balade, on l'a dit, en ville, ville déserte, pluvieuse, nocturne, noctambule, menaçante aussi d'une certaine manière. Je vous propose une autre balade, mais de jour, celle-ci dans le 18e arrondissement de Paris, où Bachung a vécu les dernières années de sa vie. Ceux qui l'ont connu dans le quartier de la Goutte d'Or racontent un homme humble et discret, dont la mémoire est désormais honorée d'un jardin à son nom. Discret, Bachung était présent dans l'ombre, c'est vrai, en faisant tout de même des dons à des associations de la Goutte d'Or, l'Arbre Bleu et les Enfants de la Goutte d'Or. Il a aidé pas mal de jeunes dans son quartier. Elsa Denac a eu envie de nous emmener là-bas, dans le 18e à Paris, sur les traces de Bachung, avec Lydie Quentin, qui dirige l'association Les Enfants de la Goutte d'Or, Isabelle Erangapendo, psychologue à l'association L'Arbre Bleu, et Jackie Libaud, conférencier, jardinier et habitant du quartier.
Comme partout dans Paris, il y a ce que l'on voit de la rue, et puis après, il y a tout ce qui se passe derrière les porches. Alors là, nous sommes dans la Villa Poissonnière, 13 petits immeubles, avec jardinet devant. Monsieur Bachung a vécu là les 3 dernières années de sa vie.
Il habitait où là-dedans ?
Il habitait un peu plus haut à gauche.
Il y a beaucoup de végétation aussi.
Là, il y a un très beau palmier. Ce palmier était dans le jardin de Monsieur Bachung.
On voit encore l'étiquette chez Osé Joséphine.
À côté de l'agitation de la rue de la Goutte d'Or, là on est vraiment au calme. Un chat noir qui passe devant nous en miaulant. En général on entend beaucoup les moineaux. Et là c'est un merle noir. Ça c'est tout à fait l'ambiance de la villa.
Et là on est de retour dans la vie.
Là, on est rue Polonceau. On est en train d'emprunter le chemin que M. Bachung empruntait avec sa fille pour aller à l'école. Ici, on longe le Square Léon. La Goutte d'Or, c'est un lieu qui s'est créé au 19e siècle avec essentiellement des gens venus d'ailleurs. Là-bas, il y a un café qui a été ouvert en 1948 par un juif algérien. Le Soleil Dorant, où l'après-midi, des vieux juifs et des vieux musulmans viennent jouer au domino. Salut les miocs.
Rends-moi grand d'une ville.
Bonjour.
Salut Slimane.
Bonjour à Jackie.
Grouille la foule des saoulés.
Ça c'est la Goutte d'Or, c'est un doux mélange de toutes sortes de gens venus de partout et de toutes origines sociales.
Je suis noir de monde.
Là on est sur le retour vers la rue de Chartres et l'association des enfants de la Goutte d'Or. Salut Lidil.
Bonjour.
Je te confie Madame France Inter.
Entrez, je vous en prie.
Mais par quoi il faudrait commencer dans cette histoire ? Il était une fois. Les associations Les Bachung.
C'était un concert qui réunissait plusieurs artistes. Et ces artistes avaient décidé de dédier une partie des bénéfices du concert à des structures locales. Nous, on faisait partie des 3 associations sur la Goutte d'Or. Et Alain n'avait pas hésité à dire que oui, lui, c'était une manière de participer à la vie de son quartier. Il est venu de manière pas très simple. Il a demandé à nous rencontrer. J'ai passé un long moment à échanger, à lui présenter les différentes activités de l'association, le foot, l'accompagnement à la scolarité, les loisirs éducatifs, tout le travail avec les parents.
Oh, attendez, j'ai une petite chanson de Bachung que j'ai volée. Mais vous savez, quand je suis dans mes moments un peu de down, c'est un pastiche, hein, je fais « Ma petite psychanalyse ne connaît pas l'emprise ». Elle est ludique, ma petite psychanalyse.
Les enfants et les jeunes et les familles peuvent venir, être accueillis comme ils sont, avec ce qu'ils ont aussi à apporter aux autres. Et puis nous, on est là pour les faire grandir, leur permettre de devenir des adultes responsables, citoyens, bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket.
Car chacun va que son destin. Péniblement.
Ça l'a, je crois, vraiment touché, cet aspect du quartier, la solidarité, la générosité des habitants, plus jeunes, moins jeunes, d'ici, d'ailleurs, le partage, la fraternité. Il avait vraiment envie de soutenir ça. D'ailleurs, il était question qu'on se revoie. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Merci Alain.
Merci Alain, c'est le grand atelier d'Alain Bachung. Je vous disais, il y a Pierre Guénard de Radio Elvis avec nous. Ils sont trois d'habitude, mais il est tout seul aujourd'hui avec sa guitare. Ils sont donc deux. On va l'applaudir et puis l'écouter chanter du Bachung.
Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si haut perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté. Transporté par-delà les abysses, par-dessus le verger. Délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun landau ne me laissera bouche bée. Aucun Valhalla ne vaut le détour. Aucun astronef ne s'y attarde. Aucun navire n'y va, sinon toi. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers. Et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Je me suis emporté, transporté. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, aucun. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers. Et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Je me suis emporté, transporté. Je me suis emporté, transporté.
Merci beaucoup. Pierre Guénard de Radio Elvis. Je me tourne vers l'un des biographes d'Alain Bashung, Pierre Mikhaïlov. Aucun Express.
Oui, bah là on est sur l'album Fantaisie militaire. On est sur une série d'albums d'Alain Bashung qui marche très très bien, hein, Osée Joséphine, Chatterton, Fantaisie militaire. Alors paradoxalement, c'est une période de sa carrière où il a vraiment le succès public, il a le soutien du public, mais c'est une période très difficile.
98.
Oui, on est à la fin des années 90, c'est une période très difficile pour lui sur le plan de sa vie privée. En même temps, il vit un divorce très difficile, très compliqué.
Sa deuxième épouse.
Avec sa deuxième épouse. Et il met tout dans cet album. C'est un petit peu une sorte d'exorcisme pour lui de se retrouver en studio. C'est le seul endroit où il se retrouve avec les Valentins, où il a la paix pour créer, pour enregistrer cet album. Donc c'est un album très important pour lui, qui va énormément marcher.
Beaucoup de fans de Bashung disent que c'est son plus bel album.
Alors ça, chacun a son album préféré.
Vous, c'est lequel, Pierre?
Moi, je dirais que je remonterai plus loin dans le temps. Je dirais plutôt Roulette Russe pour ce côté un peu cafard urbain.
79, hein,
on est en 79, voilà, c'est son deuxième album qui est déjà très abouti. Il y a déjà tout ce qu'on va aimer chez Bashung et il y a une sorte de poésie urbaine qui me plaît, une sorte de fin d'années 70, d'ambiance comme ça qui me plaît beaucoup dans ce disque.
Pierre Guénard, pourquoi Fantaisie militaire? Vous avez issu pour nous, pour le Grand Atelier, une chanson, un texte de ce disque-là.
J'ai découvert Bashung avec Fantaisie militaire. Je connaissais même pas Gabi, je crois. J'ai d'abord commencé par ça, et puis après j'ai découvert que c'était lui qui chantait Gabi, Osée Joséphine, et tous les gros tubes. Et c'est un album qui m'a justement, j'ai trouvé qu'il était, il y avait une liberté absolue dans cet album, dans la musique, dans les mots, dans la narration, parce que c'est aussi un narrateur, Bashung. Et puis cette chanson, j'ai découvert aussi Bashung par Noir Désir, un petit peu. Ils avaient fait une reprise de Volontaire.
Ouais, on vous a assez dit que vous aviez un peu la voix de Noir Désir, si je puis dire.
Non, on me le dit pas souvent. Ah.
j'ai lu ça ici et là et je pensais que ça commençait.
Je le prends comme un compliment.
Je pensais que ça commençait, vous avez assez un peu.
Mais c'est vrai que pour moi c'était assez lié parce que j'avais beaucoup aimé la reprise de Noir Désir et Bashung de sa propre chanson Volontaire. Et puis voilà, après c'est vrai, je rejoins Pierre, Roulette Russe, c'est un album qui a beaucoup compté pour moi par la suite, et puis l'imprudence. Et je trouve que l'imprudence, justement, il y a quelque chose de phénoménal. On n'avait jamais vu ça dans la chanson française avant, et ni dans la musique française, tout court, je crois. Pour moi, c'est l'équivalent des Marquises de Brel, version 2000, quoi.
Jean-Claude Galota, il faut nous parler d'une aventure humaine, parce qu'elle n'est pas simplement artistique, votre aventure avec Bashung. Vous le rencontrez... pas tout à fait à la fin de sa vie, ça se passe en plusieurs épisodes, mais vous comprenez qu'il a envie de travailler avec vous, c'est ça?
Oui, il avait envie de mettre de la danse dans ses concerts, et donc on a eu une première rencontre, malheureusement je pouvais pas le faire parce que je faisais un spectacle, et il m'a dit, mais on se retrouvera. Et bien sûr, un jour un producteur arrive avec Jean-Marc Ganassia, avec l'album de Gainsbourg, L'homme à tête de chou, et il me dit, ça serait bien d'en faire une chorégraphie et de trouver un chanteur... Et moi, je dis, ben, il y en a qu'un, c'est Bashung. Et Jean-Marc Ganassia me dit à l'époque, mais il est intouchable. Il était en plein, ce que disait Pierre, c'est les moments où il était en gros succès public.
Quelle année à peu près?
Ben, on est dans les années 2000, 2005, par là. Mm-hmm. Oui, parce qu'on le rencontre en 2004. Il vient inaugurer à Grenoble la Maison de la Culture, il chante. C'est là qu'il me demande des chorégraphies. Et après, on se retrouve quelques années après avec ce projet. Et bien sûr, il a accepté tout de suite. Donc, grosse révolution dans le milieu.
C'est-à-dire qu'il accepte de réenregistrer la chanson.
Voilà, exactement. Et il le fait d'abord pour s'essayer, pour voir s'il arrivait à chanter du Gainsbourg. Et c'est heureusement qu'il fait ça avec Denis Clavezol, parce que c'est ça qui va rester, en fait. Parce qu'on ne sait pas encore qu'il va être malade. D'ailleurs, donc on fait les premières rencontres. Il voulait même danser, comme
c'est
vrai, expliqué. Oui, oui. J'ai gardé d'ailleurs dans le spectacle le moment où il devait danser pour lui rendre hommage. Et vous parliez du manque. En fait, on a essayé d'incarner ce manque par la chaise, en fait, parce qu'il devait être sur une chaise à roulettes qui se baladait dans toute la chorégraphie. Et quand j'ai repris le spectacle, en fait, j'ai dit, bon, on va mettre la chaise pour me donner l'espace, en fait. Et puis quand j'ai vu ça, ça nous a tellement émus qu'on l'a gardé. Donc, il est incarné par cette chaise. Et donc, voilà, et du coup, il y a eu cette rencontre. Tout de suite, il a accepté, on est allé chez lui, il m'a demandé, il était très, très humble, incroyable, incroyable.
Il vous parlait, parce qu'il paraît qu'il était très timide, on l'a compris.
Oui, non, bah, on parlait beaucoup, il a senti un truc, certainement. On parlait de plein de choses aussi, de films, de musique, de littérature, très cultivé.
Avec vous aussi, Claire Denis?
Ah oui, il est... Sa filmographie, il connaissait énormément de films, on parlait beaucoup de films, d'autres musiciens. Alors là, c'était sans fin. Ouais. Et de livres. Oui.
Voilà, il était très très cultivé. Donc dès qu'il trouvait une âme sœur, il y allait, on parlait beaucoup. Et là, il me demandait vraiment qu'est-ce que tu veux, combien de temps. Voilà, donc on a construit ensemble l'homme à tête de chou. Et voilà, et du coup, et puis il y a eu tout à coup l'interruption de Bleu Pétrole, parce qu'il devait sortir un album.
C'est un disque qui a pris du temps, hein, Pierre oui, Mikhaïlov.
Oui. Mmh. Ah oui, énormément. Je crois que l'enregistrement de Bleu Pétrole, ça s'étend sur 2 ans, ça court sous 2 ans. Dick Rivers, qui le croise au studio ICP à Bruxelles, pendant que Bachung commence à enregistrer son album Bleu Pétrole. Pendant ce temps-là, Dick Rivers aura le temps de faire 2 albums. Enfin, c'est un disque qui prend énormément de temps, comme tout ce que fait Bachung à l'époque.
Et l'homme à tête de chou raconte quoi? C'est peut-être pas mal de rappeler ce que c'est que le...
Oui, c'est un journaliste.
Le fils de cette œuvre.
Voilà, et donc qui rencontre différents personnages. Et en fait, c'est un flashback, puisqu'il est, il devient fou, puisqu'il tue Marie-Lou de jalousie. Et Jane Birkin nous raconte en fait qu'il l'accompagnait dans un Gainsbourg. Accompagner Jane Birkin dans un tournage, et il s'emmerdait à l'hôtel, et tout ce qui se passait dans l'hôtel en fait lui servait d'écriture, et notamment la bande d'incendie avec laquelle il va tuer Marie-Lou. Voilà, tout lui servait en fait pour écrire, et Bachung avait très envie de reprendre les paroles de Gainsbourg, puisqu'ils avaient fait un disque ensemble, d'ailleurs que moi j'aime beaucoup, qui a pas du tout marché.
En 82, Plaie Blessure.
Voilà, j'aime beaucoup ce disque.
Pierre Mikhaïlov, ce disque 82, oui, belle collaboration.
Oui, absolument. Alors c'est vrai que ça n'a pas marché, parce qu'après le succès énorme de Pizza, 500 000 exemplaires, la maison de disques est très déçue, on tombe à 65 000 exemplaires. Ça désarçonne tout le monde, les médias qui avaient apprécié Gabi et Vertige de l'amour. C'est un album un peu ovni, c'est la rencontre de deux personnages qui, à l'époque, au tout début des années 80, sont dans une période assez difficile. Serge Gainsbourg vient de rompre avec Jane Birkin. Bachung change complètement son environnement musical, son environnement professionnel. C'est deux électrons libres qui se retrouvent un peu paumés, un peu dépressifs, et qui font cet album OVNI, qui est effectivement un des plus beaux de la discographie d'Alain Bachung aussi, je trouve, qui a un côté très très new wave, très extrême, très avant-gardiste, qui a extrêmement bien vieilli, et qui aujourd'hui est au contraire considéré comme un de ces très bons disques.
Ça a mis du temps. Hein,
ça a mis du temps, oui. Effectivement.
Et ça vous semble évident que Bachung ait repris l'homme à tête de chou?
Alors, évident... Oui et non.
Oui.
Oui et non, parce que la collaboration avec Gainsbourg s'était bien passée, mais ensuite il y avait plus vraiment eu de contact, et les rares contacts qui s'étaient produits, c'était pendant le Printemps de Bourges où Gainsbourg avait filmé la prestation d'Alain Bachung. Bachung avait eu l'audace de demander à visionner les rushs avant le montage final, et Gainsbourg, vexé dans son orgueil de réalisateur, avait donc supprimé toute la séquence de Bachung. Donc il y avait plus vraiment d'amitié, de contact entre les deux hommes. Mais je dirais qu'effectivement, si quelqu'un peut reprendre du Gainsbourg, pour moi il y a deux personnes en France qui sont hélas toutes les deux décédées aujourd'hui. C'était Daniel Darc et Alain Bachung, oui.
Je suis l'homme à la tête de chou. Moitié légumes, moitié mec. Aux yeux de Marie-Lou, je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à fond de cale à bout de nerfs, j'avais plus un copec. Du jour où je me suis mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job à la feuille de chou, un scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec et mat aux yeux de Marie-Lou. me traînais comme un blanc bec et me rendais moitié coucou. Ah non, tu peux pas savoir, mec. Il lui fallait des discothèques et bouffer au Kangourou Club. Alors je signais des chèques, sans provision, j'étais fou, fou. À la fin, j'ai fait le caillou, comme un melon, une pastèque. Mais, maman, je ne veux pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, l'aimer encore? Des clous. Qui et où suis-je? Je joue ici ou dans la blanche écume d'Arek? Sur la plage de Malibu.
Je me souviens avoir fait partie des spectateurs du Théâtre du Rond-Point en 2009. Il était mort, Bachung, quelques mois avant. C'était très émouvant d'aller voir cette chaise où il aurait pu être de son vivant, bien sûr. Et le spectacle commençait avec des mots, parce que vous aimez bien de temps en temps Jean-Claude Galota projeter des mots sur scène. Et ces mots disaient « Il y a l'absence de Marie-Lou dans L'homme à la tête de chou, et puis il y a l'absence de Gainsbourg, et maintenant celle de Bachung, comme si la danse était le réceptacle de l'absence, qu'elle avait en charge l'énergie qui reste, la trace. » Ça se danse, l'absence.
Oui, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire modestement. Mais voilà, moi, je ne voulais plus le faire, ce spectacle. Quand il m'a dit qu'il était malade, et il m'a dit « Non, 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 tu le fais, ça sera mon testament et je viendrai le voir. » Voilà, il était persuadé qu'il arriverait à venir le voir au rond-point. Et il avait donc fait une première maquette. Et ensuite, comme Mozart sur son lit de mort, en fait, il donnait les noms des musiciens qu'il voulait pour ce disque.
Si vous aviez pu le faire danser, s'il n'avait pas été malade, comment vous auriez fait bouger Bachung sur scène?
Alors, il était le personnage, comme s'il était en voiture, en fait, comme un road movie. En fait, il se promenait avec cette chaise roulante, et de temps en temps, il se levait, et puis à la fin du ballet sur Marie-Lou, en fait, il prenait Béatrice, en fait, je me souviens, parce que c'était avec elle que c'était prévu, et elle est toujours là. Et donc, elle le faisait tourner très, très simplement, en fait, comme s'il se souvenait. En fait, c'était la danse du souvenir qui lui permettrait ensuite d'être dans l'hôpital psychiatrique, de devenir fou. Et en fait, c'était sans arrêt en mouvement. Et il m'avait demandé de mettre ses musiciens sur le côté, alors que moi, je les voulais vraiment devant pour qu'on les voit. Lui m'a dit non, 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 parce qu'ils vont perturber la danse, donc il vaut mieux les mettre sur le côté. Et donc, il avait toujours ce rivage sur le côté, pour être près d'eux et de temps en temps venir sur la danse.
C'est un texte de Gainsbourg assez convulsif, extrêmement sexuel.
Aujourd'hui, il serait interdit, je pense.
Il dit
des trucs, c'est incroyable.
Comme quoi, par exemple? Profitez du service public. Exprimez-vous.
Non, mais de la manière dont il parle...
Dont il décrit des scènes.
Qui tue, oui. Comme il tue ça, par la jalousie. Voilà, ça serait impossible d'entendre ça aujourd'hui.
On va pouvoir le revoir, L'homme à tête de chou, hein?
Oui, alors à la rentrée en septembre au Rond-Point, puisque c'est là que ça
à
a
Paris,
été créé,
oui.
Chez Jean-Michel Ribes, parce que c'est le seul endroit où on pouvait le danser. Et voilà, du coup là, on va le reprendre.
On va se quitter avec Immortel. Immortel, c'est une chanson de Dominica que chante Dominica depuis des années, mais qu'il avait proposée à Bachung. Bachung a hésité et finalement ne l'a pas gardée pour Bleu Pétrole. Mais Immortel ouvre le disque France Inter en amont. On l'écoute, Alain Bachung.
Je t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu devinez que des dieux se cachaient sous les faces avinées.
mortel, mortel. Nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel.
Immortel, Dominica, chanté par Bachoum sur le disque En amont que vous pouvez vous procurer. Merci beaucoup Claire Denis d'être venue témoigner.
Oh, merci, c'est moi qui vous remercie. C'est très émouvant, très beau.
Merci à vous d'être venu. Ouais, elle est très belle, cette chanson de Dominica. Merci Jean-Claude Galota, Bon Vent, avec notamment L'Homme à tête de chou. Je remercie aussi Pierre Guénard de Radio Elvis d'être venu parler et chanter. Aussi, c'est pas simple, devant notamment Boris Bergman, qui est là, l'un des paroliers de Bachoum. Merci Pierre Mikhailov, le biographe. Merci à tous d'avoir été au 104 en direct et de nous avoir écoutés aussi.